Et bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 13 octobre. Anaïs Feugas, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, 30 milliards d'euros pour faire de la France une grande nation d'innovation. Plan annoncé hier par Emmanuel Macron. Et des questions ce matin concernant l'opacité budgétaire, le nucléaire. Des députés demandent plus de transparence. On voit ça après les autres titres, Anaïs.
Et un hommage aux Invalides, une inhumation au Mont Valérien, la France dit au revoir au dernier compagnon de la libération, Hubert Germain. La Suède se mobilise aujourd'hui, mobilise la communauté internationale contre l'antisémitisme. Et puis vengeance et trahison au Moyen-Âge, le dernier Ridley Scott au cinéma.
Nos invités ce matin, 7h50 Léa.
Et alors justement, que pense le monsieur finance publique de la droite du plan de relance présenté hier par Emmanuel Macron? Éric Woerth nous répondra à 7h50. Il réagira aussi à la décision de Xavier Bertrand de se ranger finalement à la décision du congrès des LR.
Et la France 2030, on en parle aussi dans le grand entretien de la matinale avec la ministre déléguée chargée de l'industrie. Agnès Pannier-Runacher à notre micro, Léa, à 8h20. Vos questions dès maintenant sur l'application France Inter et sur les réseaux sociaux.
France Inter. Produire davantage de voitures, 2 millions de véhicules électriques ou hybrides, fabriquer des avions bas carbone. La technologie et l'innovation comme idéologie de développement pour le monde de demain, énoncé hier par le président de la République en annonçant son plan d'investissement France 2030 après la diffusion d'un film sur les moments clés de l'industrie française, TGV, Rafale, Concorde et nucléaire. 1 milliard d'euros pour développer des petits réacteurs plus faciles à gérer que les actuels. Sauf qu'entre doutes environnementaux et opacité budgétaire, cela crée des remous. Fabien Cazot, le chef du service économique de France Inter, nous apprend ce matin qu'une proposition de loi va être déposée pour demander plus de transparence.
Du prix des centrales au coût de leur maintenance, il faut souvent se contenter d'estimations dans le secteur du nucléaire, voire d'estimations évolutives, tant les paramètres sont parfois amenés à changer sur de longues périodes, par exemple en fonction des retards qui s'accumulent sur le chantier de l'EPR à Flamanville. Qu'en sera-t-il des petits réacteurs SMR évoqués hier par le chef de l'État? Là aussi, on manque de chiffres, déplore la députée anciennement En Marche, aujourd'hui non inscrite, Émilie Cariou. Membre de la commission des finances, elle déposera demain avec d'autres parlementaires une proposition de loi pour réclamer plus de transparence en matière de nucléaire.
Aujourd'hui, on ne sait pas combien ça coûte. D'ailleurs, on n'en a jamais créé un seul de SMR. On a tout à construire. C'est étrange et c'est une manière antidémocratique d'annoncer un choix sans avoir même un rapport préalable d'évaluation de quoi que ce soit. Aujourd'hui, les parlementaires ne disposent absolument pas des éléments d'éclairage nécessaires à valider les propositions en matière de nucléaire civil.
Concernant un autre projet emblématique de la filière, celui de l'enfouissement des déchets à Bure dans la Meuse, impossible, déplore de son côté la Cour des comptes, d'en prétendre connaître le juste coût. En 15 ans, l'estimation a varié du simple au triple, entre 15 et 45 milliards d'euros.
Quant à la flambée du coût de l'énergie qui touche tous les pays européens, Bruxelles dévoile aujourd'hui sa boîte à outils dans laquelle les États sont invités à piocher pour réduire la facture des ménages. Principale piste, inciter les gouvernements à baisser les taxes. Les Invalides, après-demain, hommage militaire à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, lui qui participa à la bataille de Bir Hakeim. À 1 contre 10, les Français tinrent tête aux troupes de Rommel. Avec son décès à 101 ans, la France tourne donc une page de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Comme André Malraux, Romain Garril décida très tôt de rejoindre l'Angleterre. Une semaine après l'annonce de Philippe Pétain à la radio demandant l'armistice à l'Allemagne nazie, Hubert Germain avait déjà débarqué à Londres. Valentin Dunat.
Hubert Germain arrive à Londres le 24 juin 1940, moins d'une semaine seulement après l'appel du général de Gaulle.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
À vrai dire, cet appel du 18 juin, comme l'explique Hubert Germain, personne ne l'a entendu. Le choc et le déclic vient du laïus effrayant, comme il dit, du maréchal Pétain, expliquant qu'il fallait terminer la guerre et déposer les armes.
Aujourd'hui, il faut cesser le combat.
Hors de question pour Hubert Germain.
C'est un moment où la France se couchait littéralement. Il n'y avait qu'un seul bonhomme, c'était le général de Gaulle.
Il embarque donc à Saint-Jean-de-Luz, direction Liverpool, pour rejoindre les forces françaises libres, un acte de bravoure, comme l'explique l'historien Dominique Lormier.
Oui, bah, il fallait énormément de courage, étant donné que l'Allemagne avait la maîtrise du ciel dans le secteur. Il y avait également la Kriegsmarine qui était très active, la marine de guerre allemande. C'était une expédition de haut risque.
Et ce fut loin d'être la seule dans sa vie. Hubert Germain a ensuite combattu avec la Légion étrangère en Tunisie, en Libye, en Égypte ou encore en Italie, jusqu'au débarquement de Provence, où il retrouve enfin son pays.
Quand je suis arrivé sur la plage, je suis tombé et j'ai pleuré comme un enfant.
Hubert Germain, qui sera inhumé au Mont Valérien le 11 novembre dans la crypte du monument Caveau numéro 9, celui réservé au dernier des 1038 compagnons de la Libération. Plus des trois quarts des Français ont désormais un schéma vaccinal complet contre le Covid. Toujours moins de patients en réanimation dans les hôpitaux. Et pourtant, le gouvernement entend bien prolonger jusqu'au 31 juillet 2022 le recours possible au pass sanitaire. Le texte sera présenté ce matin au Conseil des ministres. Les personnels des bibliothèques sont en grève aujourd'hui. Selon eux, un tiers des jeunes ne viennent plus dans ces lieux publics depuis que le pass est obligatoire pour les 12-18 ans. Et la saturation des hôpitaux en ce moment ne se trouve pas dans les services Covid, mais en pédiatrie. En Ile-de-France, les cellules de crise sont réactivées. Les 5 services de réanimation pédiatrique, 70 lits sont saturés à cause de l'épidémie précoce de bronchiolite. On en parle à 8h. Dans ce contexte, la loi RIST qui doit s'appliquer à la fin du mois inquiète les petits hôpitaux déjà en manque d'attractivité. Cette loi vise à plafonner la rémunération des médecins intérimaires. Bonne idée sur le papier, mais Véronique Julia, cela risque d'aggraver la situation des établissements qui pâtissent déjà d'une démographie médicale en berne.
Les hôpitaux sont pris entre le marteau et l'enclume. Soit ils payent les intérimaires au prix fort, jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour une nuit de la Saint-Sylvestre aux urgences, dans ce cas ça creuse leur budget et souvent leur déficit, soit on plafonne le tarif de ces intérimaires, mais dans ce cas ils redoutent de ne plus trouver preneur. Une agence spécialisée dans l'intérim sanitaire nous explique d'ailleurs que l'imminence du plafonnement raréfie depuis quelque temps les candidatures. On va bientôt avoir du mal, dit-elle, à honorer les remplacements. Les intérimaires ne veulent pas travailler pour moitié moins. Ce plafonnement des tarifs pour éviter les abus, c'est l'ancienne ministre Agnès Buzyn qui l'avait instauré fin 2017, mais il était depuis peu respecté par les hôpitaux. Pour maintenir leurs services ouverts, ils préféraient payer. En les contraignant pour de bon à respecter les plafonds, la loi RIST va-t-elle aggraver la pénurie? Ces derniers jours, et même hier encore, plusieurs députés s'en sont émus. L'exécutif s'est dit conscient du risque. Olivier Véran vient d'ailleurs de lancer une consultation pour éventuellement retarder l'application de la loi, partout ou dans les régions les plus tendues. Le temps que passe au moins la période hivernale, en général propice aux recours aux urgences.
En voilà d'autres qui manquent de bras. Les entreprises normandes proposent 16 000 emplois à pourvoir dans la Manche. Le Calvados et la région de Caen. Les collectivités organisaient donc hier à Paris un job dating. Je m'installe en bord de mer. Tout un programme pour convaincre, après crise sanitaire et confinement, les forces vives de quitter la pollution francilienne pour l'air marin. Sébastien Sabiron.
Vous connaissez un peu Cherbourg ?
J'y suis passé, mais je ne connais pas plus que ça.
Cherbourg, la mer, ses parapluies, ses loyers modérés, la promesse d'une nouvelle vie pour Damien, demandeur d'emploi.
Mon projet, il est depuis longtemps de partir de la région parisienne et suite à la perte de mon emploi, l'occasion allait de faire d'une pierre deux coups et puis de trouver un emploi là où on a envie plus d'habiter. Quoi.
Pour fabriquer ses pales d'éoliennes géantes, l'entreprise LM Wind Power doit encore recruter 300 personnes d'ici la fin de l'année. Pas simple dans le département de la Manche qui frise le plein emploi. Vanessa Vessière, chargée de ressources humaines.
L'usine a seulement 3 ans et on a déjà recruté 500 personnes. Donc on a, je dirais pas éclusé le marché local, mais presque. On recrute majoritairement des ouvriers. Ce qui va les attirer, c'est un cadre de vie plus proche de la nature et beaucoup plus calme que Paris. Voilà, c'est tout ça en fait.
À condition d'accepter un salaire plus modeste, 5 à 20% de moins qu'en Ile-de-France. Alors pour inciter les franciliens à franchir le pas, les agences d'attractivité les prennent par la main. Olivier Chartrain de l'agence Latitude Manche.
On va les accompagner sur l'emploi du conjoint, à trouver un logement, trouver un médecin, des crèches, sur la scolarité des enfants, l'activité culturelle. Et l'idée, c'est de leur montrer qu'il y a une dynamique sur le territoire. C'est ce qui paraît essentiel pour les candidats, c'est ça qui va les faire partir.
Les emplois à pourvoir couvrent tous les secteurs et niveaux de qualification, des caristes aux ingénieurs en passant par les développeurs informatiques.
Autre inquiétude, la crise planétaire des approvisionnements. Le Royaume-Uni va appeler aujourd'hui à Washington à une action mondiale pour sécuriser les chaînes. Congestion mondiale à cause des pénuries, plusieurs porte-containers géants. Plein de marchandises de Noël ont dû être redirigées du port anglais de Felixstowe vers des ports européens. Et les difficultés vont s'accroître si le monde n'investit pas plus dans les énergies propres. L'alerte de l'Agence internationale de l'énergie ce matin. Sérieux avertissement devant la direction que le monde prend à 2 semaines de la COP26. La transition est trop lente.
Il est 7h10. La Suède, Anaïs, en première ligne contre l'antisémitisme.
Malmö accueille les représentants d'une 50aine de pays pour un forum international contre la haine des Juifs. Historiquement, ce port dans le sud du pays était la porte d'entrée des Juifs fuyant l'Europe. Mais ces dernières années, la cité multiculturelle est confrontée à la montée de l'antisémitisme au point, Anne-Françoise Hiver, de pousser les Juifs à l'exil.
Dans les années 70, la congrégation juive de Malmö comptait plus de 2000 membres. Aujourd'hui, ils sont moins de 500. Les autres sont partis. En cause, un sentiment d'insécurité qui s'intensifie à chaque nouvelle explosion de la violence entre Israël et la Palestine, dans une ville où de nombreux habitants ont leurs racines au Moyen-Orient. Esther et Yarin déménageront l'été prochain avec leurs 3 enfants près de Tel Aviv.
Si cela avait été sûr, nous ne serions pas partis. J'ai mon travail, je parle suédois, je ne parle pas hébreu. Ma mère habite ici, mes amis aussi. Il va falloir que je recommence tout à zéro.
Mais les parents estiment qu'ils n'ont plus le choix. Leur fille aînée, âgée de 12 ans, est harcelée à l'école. Une enquête a montré que la plupart des élèves de confession juive de Malmö avaient fait l'expérience de l'antisémitisme. Selon Björn Westerström, professeur d'histoire, les enseignants, souvent, ne savent pas comment réagir.
Les profs ont peur de parler de ces sujets parce qu'ils se disent que s'ils abordent l'Holocauste ou qu'ils discutent du conflit israélo-palestinien, cela va provoquer des querelles en classe.
Depuis 2 ans, la municipalité dirigée par les sociodémocrates et les libéraux essaie d'inverser la tendance avec une série d'initiatives pour combattre notamment l'antisémitisme à l'école.
Elle avait été étiquetée mâchoire de coyote, puis était tombée dans l'oubli. Ce fossile, trouvé il y a 30 ans, relance les spéculations. Il pourrait s'agir d'une mâchoire de chien, prouvant sa présence en Amérique centrale il y a 12 000 ans. Et qui dit chien, dit maître, ce qui changerait les connaissances actuelles. Allez, c'est le cinéaste incontournable en cette fin d'année, Ridley Scott, qui aime la France. 50 ans après Les Duellistes tournés en Dordogne, voici une palpitante histoire de vengeance et de trahison au Moyen-Âge. Corinne Pellissier.
I request a duel to the death. One of us has lied. Let us let God decide.
De rivalité en frustration, ils finiront par s'affronter à la suite d'une accusation de viol, mais avant tout pour laver leur honneur. C'est une affaire connue sous le nom du Jugement de Dieu, le dernier duel judiciaire en France qui s'est tenu à Paris en 1386. Une lutte à mort incarnée ici par les comédiens Matt Damon et Adam Driver, dans les rôles des valeureux Jean de Carrouges et Jacques Legris. La même histoire depuis 700 ans, selon Ridley Scott, en défenseur ici du mouvement MeToo, bien décidé à faire entendre enfin la parole des victimes.
Rien n'a changé depuis cette époque. Regardez encore l'affaire Epstein, c'est toujours la même chose. C'est important de faire des films sur ces histoires pour bien garder les sujets à l'esprit.
There is only the power of man. Tout l'intérêt du film sera donc de confronter les différents points de vue, 3 protagonistes pour 3 versions de la même scène. Un procédé un peu répétitif mais très pertinent, quelle que soit l'époque, sur le crédit accordé à la voix des victimes en demande de réparation. Incarnation magnifique de Jodie Comer, menacée de mort pour avoir osé parler. Elle est ici la grande héroïne de ce duel, dans la plus pure tradition des films de Ridley Scott, depuis Alien, souvent portée par des personnages féminins très forts.
I will not be silent.
Voilà, et le dernier duel, c'est donc sur les écrans aujourd'hui, Nicolas.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom, c'est dans 3 minutes. Continuez à soigner en Afghanistan sous le joug taliban.